La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Qu'est-ce que c'est connaître? Alors, pour réfléchir à cette question, qu'est-ce que c'est connaître Dieu? Je me suis appuyé sur quelqu'un qui a réfléchi à la question symétrique, comment Dieu se laisse connaître, comment Dieu se révèle. C'est un théologien que vous connaissez peut-être, un Américain, un jésuite dont le papa, le tonton était directeur de la CIA. Je ne sais pas si vous dites quelque chose,
non?
Un vrai jésuite, un vrai directeur. Un autre, dont, enfin, un autre de ses tontons a donné son nom à un aéroport à côté de Washington. Dulles, voilà, oh, qui connaît. Avery Dulles. Donc Avery Dulles, il s'est amusé, enfin, il était cardinal quand même à la fin. Il a réfléchi, en fait, il s'est dit, oui, il y a plusieurs façons de parler de la théologie, de parler de la révélation, de parler de la manière dont on connaît Dieu. Une première façon, c'est de dire que, en fait, on connaît, Dieu se révèle à travers, on va dire, des phrases. Il y a des phrases dans la Bible, dans l'Évangile, par exemple, ou dans la tradition, et il suffit de connaître ces phrases. Par exemple, est-ce que vous connaissez le credo? Les sœurs, elles connaissent, en tout cas, les autres, je ne sais pas. Mais... Vous connaissez le credo, et bien voilà. Donc, dans ce cas-là, ça veut dire que vous avez la vie éternelle. Pas mal, quand même. Alors, c'est un modèle de connaissance de Dieu qui peut être un petit peu fragile parce qu'il est unidimensionnel. C'est voilà, juste je connais le sens des mots. Et donc, c'est un modèle qui est pratique parce que ça permet d'analyser le sens des mots, ça permet d'analyser les cohérences, etc. Ça permet d'être proche de la Bible, d'être proche de la tradition, mais c'est faible dans la mesure où ben, ça ne nous implique pas forcément très profondément. Donc, il y a un autre modèle de révélation. Qui est le modèle plutôt de Dei Verbum. Donc, c'est cette idée que Dieu s'est révélé dans une histoire. Et la Bible, ensuite, elle a raconté cette histoire. Dieu s'est révélé dans une histoire, quelque chose de dynamique. L'histoire dont on nous parle aujourd'hui, le Christ, c'est cette histoire de sa mort, de sa résurrection, de son ascension et de sa Pentecôte. Donc, dans un mystère qui se diffracte dans le temps, dans un mystère qui est comme un récit auquel on fait partie un petit peu, une histoire à laquelle on participe. Le Christ nous redit ici qu'il est envoyé de Dieu, qu'il est sorti de Dieu, qu'il est missionnaire, missionné par Dieu, et nous continuons sa mission, nous continuons d'être missionnaires. Comment faire pour connaître Dieu dans ce modèle? Eh bien, en participant à son histoire. En étant partie prenante de son histoire, oui, connaître Dieu, c'est participer à l'histoire du salut. Peut-être que la vie éternelle, c'est déjà aujourd'hui participer à cette histoire du salut, c'est déjà reconnaître que Dieu est agissant dans notre histoire. Je ne sais pas si parfois vous vous dites, en réfléchissant en fin de journée, en priant, si le Seigneur a agi dans votre journée, eh bien, si vous reconnaissez cette œuvre de la grâce de Dieu dans votre histoire personnelle, c'est que vous reconnaissez un chemin commun entre Dieu et vous, que vous reconnaissez que la vie de Dieu commence en vous, que la vie éternelle commence dans votre histoire. Alors il y a un autre modèle qu'il propose. En fait, il y en a plusieurs, mais je ne vous en propose que trois parce que. Voilà, c'est ça. Donc il y a un autre modèle, c'est celui de l'expérience. C'est se dire que finalement Dieu se révèle à moi par une expérience. Alors ça va être le vocabulaire de la rencontre. Ah, j'ai rencontré Dieu. Dieu m'a appelé. Quelque chose de fulgurant dans cette expression. Quelque chose de, peut-être parfois de très individuel aussi. Mais quelque chose de très beau. Je me souviens avoir été très marqué par des détenus, deux ou trois, qui m'ont dit le Seigneur m'est apparu. Je n'étais pas chrétien et le Seigneur m'est apparu. Avoir une apparition du Christ, bon, moi ça ne m'est pas arrivé, c'est quelque chose de très fulgurant, mais nous, on a parfois dans nos histoires des soirées dont on se souvient, des soirées de prière qui nous ont marquées. Souvent les gens ils racontent ça, enfin, voilà. Des moments de prière où on a vécu une expérience particulière. On a vécu une expérience de Dieu. Dieu était là avec moi. Je connaissais Dieu d'une certaine manière. Il se laissait connaître à moi. La vie éternelle, eh ben, elle s'est condensée dans cet petit instant. Ce petit instant a été une sorte de contact avec la vie éternelle. Et souvent, ben, ce temps un peu particulier, cette expérience particulière, elle est fondatrice. Et c'est elle qui me permet ensuite de, eh bien, de relire mon histoire, mon entier. Voilà. C'est elle aussi qui peut ensuite m'intéresser à ce que dit la Bible et voir si c'est systématique, etc. C'est quelque chose qui m'aide à grandir dans une foi du cœur, une foi du cœur qui irradie ensuite dans tout notre corps, dans tout notre être et dans notre pensée aussi. Donc une connaissance plus riche qu'uniquement une connaissance de pensée, une connaissance d'histoire, une connaissance d'expérience. Mais ce n'est pas uniquement cette connaissance d'expérience, une connaissance solitaire. Dans la première lecture, les apôtres sont tous ensemble, ils prient ensemble. C'est une sorte de première liturgie. Il y a quelque chose de ce qu'ils vivent qui concentre tout ce qu'ils ont vécu avec le Christ, qui concentre toutes les promesses avec le Christ. Ils sont tous ensemble, ils vivent une expérience, peut-être moins codée que la nôtre, que notre expérience liturgique, mais quand même une expérience commune qui n'est pas qu'individuelle. Une expérience qui les dépasse. Alors, j'étais à Jérusalem l'autre jour et je me suis dit, où est ce lieu où ils étaient ? Et ce lieu où ils étaient a été détruit, a été reconstruit. Pendant longtemps, c'était l'église majeure de Jérusalem, en fait, même après la construction du Saint-Sépulcre. C'est resté l'église majeure de Jérusalem, et puis aujourd'hui, il n'en reste rien, après deux destructions. Et pourtant, le Seigneur est toujours avec eux et toujours avec nous. Les murs sont détruits, la communauté reste. Alors on ne ressemble pas du tout à ces apôtres d'il y a 2000 ans, mais dans la continuité qu'il y a entre eux et nous, il y a quelque chose de cette éternité de Dieu que nous partageons avec eux, que nous vivons. Eh bien, chers frères et sœurs, continuons cette expérience commune, célébrons l'Eucharistie, laissons-nous toucher par le Christ pour le connaître, pour l'aimer de tout notre cœur et pour laisser irradier cet amour dans notre vie. Amen.